Je peux fermer déjà maintenant.
Ouais, ouais. Voilà, j'espère que ça joue ainsi. On règle la technique un peu. Et je vous remercie. J'ai noté l'heure 10h30. Donc, au plus tard 11h, je dois avoir terminé. Alors, je vous souhaite la bienvenue à chacun dans ce lieu. On a vécu des troubles cette semaine. On en a déjà parlé plusieurs fois. Le message qui m'était proposé pour aujourd'hui, eh bien, il entre, je dirais, un peu aussi par rapport à ce que Viviane a vécu, son Seigneur, mieux connaître son Seigneur. Et c'est le thème un peu de ce message aujourd'hui, au travers du psaume 110, la deuxième partie, mieux connaître notre Seigneur. Le culte hébraïque, j'en avais parlé la dernière fois au mois de septembre, était un peu une préparation au message de ce jour. La première partie, je l'avais abordée au mois d'août, et cette première partie nous parlait de la session de Jésus, notre Seigneur, auprès du Père. Ici, Melchisédek, un nom un tout petit peu bizarre, qui aurait l'idée d'appeler son nom Melchisédek. Je pense que pas beaucoup doivent avoir fait depuis lors. Alors, la graphie est un peu particulière, et suivant les traductions, vous trouvez Malki, ensuite Sédek avec un tsadé, un K ou un Q à la fin du mot, etc. C'est des transcriptions de l'hébreu, avec des lettres que nous n'avons pas. Donc, il est évident qu'il peut y avoir des différences ici ou là. Une n'est pas plus juste que l'autre, ou pas plus fausse que l'autre, mais simplement que vous sachiez. Je ferai plusieurs lectures bibliques au cours de ce moment, parce que l'essentiel, on va le trouver dans l'Épître aux Hébreux. Alors, j'essaie de peser, voyons voir, je dois peser ma dithyrambie en avant, voilà. Alors, le psaume 110, qu'on va lire rapidement, « Déclaration du Seigneur à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Le Seigneur tendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. À toi le principat au jour de la puissance de ta puissance, dans l'éclat de la sainteté. Du sein de l'aurore comme la rosée, je t'ai donné le jour. Le Seigneur l'a juré, il ne regrettera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur est à ta droite, il écrase des rois au jour de sa colère. Il exerce le jugement parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il écrase le chef d'un vaste pays. En chemin, il boit du torrent. C'est pourquoi il relève la tête. » Alors, on peut dire que ce psaume, comme vous le voyez, il est construit un peu sur deux jambes. Tout d'abord, il y a la première partie, cette déclaration du Seigneur, « Assieds-toi à ma droite ». Ensuite, cette deuxième partie, « Le Seigneur l'a juré ». Tu es prêtre pour toujours, un personnage qui avance un peu sur ces deux jambes-là. Cette première jambe, eh bien, on la retrouve donc elle vient du Deux Rois, chapitre 14, verset 17, les psaumes 2, 8 et 95 et Daniel 7, qui appuient cette promesse confirmée par la double déclaration de Dieu lors du baptême de Jésus. Tu es mon fils bien-aimé. Au mois d'août, on s'était arrêté donc sur cet aspect-là. Et aujourd'hui, eh bien, on va s'occuper de cette deuxième partie uniquement. J'ai deux, trois problèmes. Voyons voir. Je dois regarder là. Pardon. Ah, voilà. Merci. Merci beaucoup. Psaume de David, cette première partie. Déclaration du Seigneur à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Cette première partie nous parle de la position de celui dont il est question ici, pour nous notre Seigneur, après sa résurrection. Et plusieurs passages nous y font référence dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans le livre des Actes, on trouve aussi 1 Corinthiens 15, Éphésiens 1 et plusieurs fois dans l'Épître aux Hébreux. La deuxième partie, Le Seigneur l'a juré, il ne le regrettera pas. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. Cette deuxième partie nous parle de son activité. Celle de grand prêtre dans les cieux. Ce qui est intéressant, c'est que, alors que la première partie du psaume est mentionnée de réitérer foi dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, cette deuxième partie, elle n'est référée que dans l'Épître aux Hébreux. Personne d'autre n'en a parlé. C'est un fait intéressant, peut-être à cause du public auquel il était adressé. Mais la contribution de cet épître à notre connaissance de Jésus est, je dois dire, unique et magnifique. Alors, on ne va pas reprocher aux apôtres de ne pas en avoir parlé. Chacun avait peut-être son domaine. Mais cette contribution-là, dans l'Épître aux Hébreux, elle est unique et vraiment encourageante. Le Seigneur l'a juré, il ne le regrettera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Nous avons quatre éléments dans ce propos. Le serment de Dieu, la prêtrise de Jésus-Christ, un sacerdoce éternel et puis une disposition nouvelle. Alors, pour mieux saisir le texte, je vous propose de commencer par la fin, un tout petit peu. Comme dans les repas, on commence par le dessert. Tout d'abord, qui est ce Melchisédek? Il en est question dans les livres de la Genèse, chapitre 14, versets 17 à 20. On va les lire. Le roi de Sodome sortit à la rencontre d'Abraham après qu'il fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il le bénit en disant « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui produit le ciel et la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui t'a livré tes adversaires. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Oui, ce personnage qui arrive un tout petit peu, comme ça, sans crier gare, un peu comme un extraterrestre. Tout à coup, il en est question, qu'est-ce qui s'est passé alors? Il y a une bataille, malheureusement, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des guerres. Et le neveu d'Abraham, Lot, elle a été pris dans le conflit. Et Abraham, pour comme c'était son parent, son proche parent, il a décidé d'aller le délivrer, ce qu'il a fait avec un certain nombre de personnes. Et il était vainqueur, il a pu ramener Lot dans sa famille. Mais alors, qui est ce personnage-là qui apparaît tout à coup en face d'Abraham? Alors, les hypothèses fourmillent. Les rabbins l'ont assimilé à Sem, fils de Noé. D'autres ont dit « Ah, c'est l'ange de l'Éternel qui est là. » Puis d'autres ont dit « Non, c'est l'archange Michel qui est le gardien d'Israël. » Et puis les chrétiens, alors il y a différentes hypothèses. Certains ont dit « Mais c'est déjà Christ qui se manifeste là. » Ce serait bien étrange parce que est-ce que Christ annoncerait Christ? Est-ce que la figure de Christ annoncerait Christ? Enfin, il y a quelque chose d'un peu bizarre là. Alors, le plus simple, il est de considérer tel qu'il se présente, à la fois roi et prêtre, adorateur du vrai Dieu, ici le Dieu très haut, et puis il habite Salem, qu'on a assimilé à Jérusalem. Et c'est suffisant. Alors, qu'en est-il maintenant sur son travail? Nous lisons ce commentaire dans l'Épître aux Hébreux. Ce Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut. Il alla à la rencontre d'Abraham, qui revenait de la défaite des rois, et il le bénit. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout. Or, si l'on interprète son nom, il est tout d'abord roi de justice. Meler en hébreu, ça veut dire le roi. Et Tzedek, c'est la justice. Puis il est aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Donc il y a ce double qualificatif qui est donné, justice et paix, deux choses qui vont ensemble. C'est ce qu'on va retrouver, ces doubles qualificatifs, on les retrouve par rapport à notre Seigneur. En 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et puis cet autre texte, c'est lui, Jésus, qui est notre paix. Melchisédek, roi de Salem, roi de paix, roi de justice. Jésus, notre justice, Jésus, notre paix. On voit déjà dans ces textes combien les choses se précisent de façon assez extraordinaire, ce que les Hébreux, bien sûr, ne pouvaient pas deviner à l'époque. Et puis ensuite, il est dit qu'il est Abraham. Qui c'est Abraham? C'est l'ancêtre du peuple hébreu. Et voilà que cet Abraham apporte la dîme, un peu une sorte d'impôt, hein, c'est ce que c'est la dîme, le dixième de ce qu'on a, il l'apporte à ce grand prêtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham reconnaît dans ce païen quelqu'un qui est plus grand que lui. Or, Abraham, qui va s'appeler Abraham, je crois, dans le chapitre suivant, qui est-ce qu'il est? Il est l'ancêtre du peuple d'Israël, et il nous a dit qu'il est l'ancêtre de multitudes de nations. Or, cet ancêtre si important, qui nous est mentionné aussi plusieurs fois dans le Nouveau Testament, le Père de la foi, voilà que c'est lui qui va offrir cette dîme, cette sorte d'impôt à ce prêtre qui est là. Ça veut donc dire que ce prêtre qui est là est plus important que lui, en fait. Il lui apporte un tribut, tout simplement. Et sa généalogie pour toujours. C'est très étonnant de lire le texte. Il nous est dit, dans Hébreux 7, lui qui n'a ni père ni mère, ni généalogie, ni commencement pour ses jours, ni fin pour sa vie, il est assimilé au Fils de Dieu et il reste prêtre à perpétuité. On s'étonne peut-être de ces éléments mentionnés dans le texte. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Et voilà que l'écrivain de l'Épître en tire un enseignement. La généalogie était primordiale à l'époque pour les prêtres. On le voit par exemple dans le livre d'Esdras, après le retour de l'exil, plusieurs se sont présentés comme étant descendants d'Aaron, voulant être prêtres. Et puis Esdras ou d'autres ont dit « Mais montrez-nous votre acte de généalogie ». Ils n'ont pas pu le faire. Et le texte nous dit, ces gens-là cherchèrent leur registre de généalogie, mais ne le trouvèrent pas. Alors, on les déclara souillés, exclus du sacerdoce. Donc, cette question de généalogie était hyper importante pour ceux qui étaient en charge dans le service de Dieu. Et puis, nous rencontrons ici un principe un peu étonnant dans l'exégèse hébraïque. C'est un principe qu'on devrait aussi adopter et qu'on peut formuler ainsi. Dans les textes, le blanc des lettres est aussi important que le noir. Je répète, le noir des textes ou le blanc des lettres est aussi important que le noir. Voilà une déclaration qui nous étonne. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire tout simplement que tout n'est pas écrit dans les textes bibliques. Beaucoup de choses sont passées sous silence, qu'on ne connaît pas. On n'a donc pas le droit d'inventer des histoires ou des choses pour des choses qui ne sont pas écrites. C'est faux, c'est pas juste. Par contre, on peut bien sûr réfléchir et puis se dire, voyons, comment faire des liens, etc. C'est permis, c'est évident, sinon on ne comprendrait rien. Mais le texte écrit ne supporte pas de compléments et de modifications. Et ça, c'est très, très important pour nous, toute exégèse. En effet, il n'est rien dit sur Melchisédek, sur son origine, pas plus que sur sa mort. Ainsi, il devient un type, une préfigure. Il n'est pas dit, bien sûr, ce n'est pas un extraterrestre qui n'est pas mort, qui n'a pas eu de père de mère, c'est bien sûr. Mais le propos du texte n'est pas là. Il est de nous dire, nous avons là une figure, quelque chose qui nous annonce autre chose. Et ça nous annonce celui qui est, bien sûr, le Christ, le Fils de Dieu. Il est assimilé au Fils de Dieu. Et dans ces domaines, il en porte les caractéristiques. Donc, distinguons le type en tant que tel de ce qu'il représente. Et pour nous, c'est bien sûr ce qu'il représente qui est le plus important. Ainsi, en figure, Melchisédek est prêtre à perpétuité, puisqu'il n'y a pas de commencement, pas de fin, etc. Et ceci est le point capital de ce psaume 110. Tu es prêtre. La prêtrise est le moteur de tout le culte, de tout l'hébraïque. Qu'est-ce qu'un prêtre, en fait? En hébreu, c'est le mot Kohen, qu'on retrouve dans des noms de famille encore aujourd'hui. Hein? Mais ça n'a pas de sens particulier. On ne peut pas y trouver une racine à quelque part. En grec, c'est Yereus, qui est dérivé de saint, consacré, si j'ai bien compris. Et puis en français, prêtre. Prêtre, eh bien, ça vient du latin chrétien, presbytère, qui vient du grec ancien, si j'ai bien compris, bien recopié, presbyteros, ou quelque chose comme ça. Ça veut dire le vieillard, l'ancien, le dignitaire. Donc on n'a pas de fonction directement sacerdotale ou sacrificielle dans ce mot-là. Dans l'Église catholique, où on connaît des prêtres, pas chez nous, c'est un ecclésiastique qui a été consacré particulièrement selon un ordre particulier. Et lui a le droit, et le seul, à pouvoir offrir par exemple les sacrements. Il est le représentant de Dieu sur la terre. Et même un simple curé, s'il est prêtre, il est représentant de Dieu sur la terre. Ce que nous, dans notre compréhension de la parole, nous ne connaissons pas. Je relève encore que dans les traductions de la Bible, les traductions plus anciennes, par exemple, Second 1910, ou bien Darby, traduisent toujours « sacrificateur ». Ils ne parlent pas « prêtre ». Ils disent « tu es souverain sacrificateur ». On met l'accent sur la fonction plus que sur le titre. Alors que nos versions modernes parlent beaucoup plus du titre « tu es prêtre ». Comment est-ce que l'Épître aux Hébreux qualifie le prêtre? Eh bien, tout grand prêtre, en effet, pris d'entre les hommes, est établi en faveur des hommes pour leur rapport avec Dieu. Son rôle est d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Pas pour plaire à Dieu, c'est pour les péchés. On ne s'attribue pas à soi-même cet honneur, on le reçoit par appel de Dieu, comme ce fut le cas pour Aaron. Je reviens avec quelques images sur ce qu'on avait partagé il y a un mois, le grand prêtre. Alors ici, une figure, bien sûr, c'est une reproduction, on n'a malheureusement pas pu prendre de photo à l'époque. Un homme qui était habillé, vous voyez, d'un habit bleu, ça c'est des descriptions qui sont fidèles, qui portait sur lui ce qu'on appelle l'éphod devant lui, et il y avait le nom des 12 tribus d'Israël, chacun sur une plaque gravée, et qui portait les noms des 12 tribus. Il en allait de même sur ses épaules aussi. Il avait aussi le nom des 12 tribus d'Israël qui étaient là. Donc, lorsqu'il entrait en relation avec Dieu, sauf le jour du Kippour, il portait en soi devant Dieu et constamment cette image du peuple. Mais, il y avait un problème, et c'est là le mais. Les prêtres et grands prêtres étaient des êtres humains comme nous. Et l'Épître aux Hébreux souligne, donc ils peuvent comprendre les problèmes des gens, leurs propres problèmes. Ils étaient faillibles comme nous, mais pour cette même raison, ils devaient continuellement apporter des sacrifices pour pouvoir, demander pardon près de Dieu, pour pouvoir continuer à faire leur service, tout simplement, continuellement pour eux et pour les autres. Et ça n'avait pas de fin. Ces sacrifices étaient perpétuels. On se rappelle ici cette image des prêtres qui offrent à l'entrée du parvis, donc cette grande cour qui pénétrait le temple lui-même, le tabernacle, ils devaient offrir des sacrifices. Et chacun qui allait devait offrir des sacrifices pour pouvoir aller plus loin. Ainsi, la répétition des sacrifices montrait que le pardon n'était ni absolu ni définitif. Le péché continuait à régner en maître, et les dons, les sacrifices, toutes les ordonnances qui portaient sur des aliments, des boissons, les bains rituels, vous rappelez, il y en a question, lavage des pieds, tout ce que vous pouvez imaginer, ça ne pouvait jamais amener à la perfection qui que ce soit sur le rapport de la conscience dans la relation avec Dieu. Continuellement, on était placé devant cette obligation, demande de pardon, offre un sacrifice. C'est, tu as fait, ce n'est pas en ordre. Offre un sacrifice, tu vas devant Dieu, offre un sacrifice. C'était continuel. Donc, finalement, c'était quelque chose qui était très mouvant, je dirais presque, un peu sur du sable mouvant. Mais peut-être la question, est-ce que Dieu pardonnera finalement? C'était peut-être la question fondamentale. Et alors, dans son service, le grand prêtre entrait donc dans le lieu saint, cette première partie du tabernacle, il nettoyait le chandelier, il faisait fumer un parfum particulier, il changeait les pains, il avait d'autres tâches encore. Le problème, c'est que cela se faisait par succession. Comme on l'a lu, c'était de façon génétique qu'on était grand prêtre. On créait ainsi une sorte de caste parmi la population. C'était toujours les descendants d'Aaron qui étaient grands prêtres, pas les autres. Mais on ne tenait pas compte avec ça de leur qualité personnelle, de leur relation qu'ils avaient avec les autres ou de relation qu'ils avaient avec Dieu. Ce qui était important, c'était qu'ils étaient fils d'eux. C'est ça qui est important. Et il y avait ce deuxième risque qui était tout à fait net, qui s'est développé, le risque de manipulation. Parce que c'était très bien d'avoir un grand prêtre qui dirigeait tout ce qui était là, mais la tentation, elle était grande pour les autorités civiles et d'autres, d'utiliser ces grands prêtres comme ils le désiraient. Et c'est arrivé. Et vers la fin, disons depuis 200 à peu près avant Jésus-Christ, même après le retour de l'exil, les gouverneurs, qu'ils aient été romains ou qu'ils aient été grecs, ne se sont pas gênés d'admettre à la place du grand prêtre tel ou tel qui leur plaisait ou de le substituer, voire de le supprimer si c'était nécessaire. Donc, un mélange du religieux et du civil. Et ça, la parole, déjà l'Ancien Testament, il avait dit que c'était interdit. Là, c'était les autorités extérieures qui étaient intervenues. Ce mélange du spirituel et du temporel est toujours une source de conflit. On le voit encore aujourd'hui. Et c'était le cas alors. Mais il y avait bien sûr ce jour-là, le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon. Pour rappel, il y avait donc un couvercle, on est à l'intérieur du lieu très saint, qui était en bois, et sur l'arche, il y avait ce qui était le lieu le plus important, on y apportait du sang une fois par année, mais une seule fois par année. C'était un lieu où le grand prêtre pénétrait, et il était seul à pouvoir le faire. Alors, le grand prêtre se trouve en présence immédiate de Dieu. Il y a eu tout un rituel de purification avant. Il apporte du sang pour implorer la grâce de Dieu sur lui et sur tout le peuple. La question qui reste et resterait et restera toujours ouverte dans ce cas de figure, est-ce que Dieu sera favorable? Est-ce qu'il acceptera ce sacrifice? Ou bien, est-ce qu'il va nous rejeter? Et c'était la question que tous devaient se poser lorsque le grand prêtre arrivait là-bas devant cet endroit. Alors il se trouve que mes feuilles, je crois que je les ai oubliées là. Petit instant, s'il vous plaît. Merci. Oui, merci. Voilà, comme quoi on a parfois des problèmes techniques. Mais alors. La prêtrise du Christ par rapport à cela, elle est d'une toute autre nature, heureusement. Lisons ce verset. Hébreux 10, en entrant dans le monde, il dit le Christ. Et on lui met là les paroles du psaume 40, on les met dans la bouche de Jésus. Tu n'as voulu, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offre, ni holocauste, qui était le propre des prêtres, comme on l'a vu tout à l'heure. Ni sacrifice pour le péché, qui pourtant sont offerts selon la loi. Puis il dit, je viens pour faire ta volonté, ton commandement. Il supprime donc le premier, le commandement, pour établir le second, ce nouvel aspect. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes consacrés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et ce deuxième verset que je trouve absolument merveilleux, car par une seule offrande, Dieu a rendu parfait à perpétuité ceux qui, par la foi, sont sanctifiés. C'est ce que l'Esprit Saint nous atteste également. Car après avoir dit « Voici l'alliance que je traiterai avec eux, après ces jours-là, dit Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur intelligence, et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon pour des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. » Quand je lis ça, quand je le relisais, j'avais presque les frissons. C'est tellement extraordinaire, cette différence entre ce qui était avant et ce qui est maintenant. Ce n'est plus des sacrifices d'animaux qui sont là, ce n'est plus une répétition constante, c'est une réalité. En Jésus, tout cela est passé. En Jésus, sanctifié, nous, par la foi, nous sommes sanctifiés, et ça, je n'arrive pas bien à le comprendre. À perpétuité, quand je me vois, on l'a chanté tout à l'heure, on a demandé pardon, quand je vois ma vie telle qu'elle est, moi, comme je la considère, ben oui, on ne peut que demander pardon, et là, vous êtes sanctifiés à perpétuité. Il y a donc quelque chose dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre de Jésus à la croix pour nous, qui nous dépasse tellement, 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 qui se trouve auprès de Dieu. Je vais juste ajouter, Viviane, elle est décédée, elle a pénétré sur la terre, décédée sur la terre, elle n'arrête pas de vivre en Christ, elle est vivante toujours. Elle voit maintenant en face ce Seigneur qui est mort pour lui. Tout ce qui est du péché est passé, tout ce qui est de la terre est passé, et il lui est donné de vivre déjà dès maintenant. Ce n'est pas encore la résurrection. Et comme ça se passe, on ne sait pas très bien, il n'y a pas de grandes descriptions qui sont là, mais une chose est, elle est en présence du Seigneur, et tout ce qui était de négatif pour elle, tout ce qui sera négatif pour nous devant le Seigneur s'est balayé jusqu'au jour de la résurrection, sanctifié à perpétuité. Est-ce qu'on s'imagine ce que ça représente? Je vous propose une minute, simplement une minute d'arrêt, peut-être que nous puissions intégrer cela. Par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. J'ajoute juste un mot, ceci est valable aujourd'hui pour chacun d'entre nous qui est là. Peut-être, pour quelqu'un, c'est quelque chose d'important. Il suffit d'aller vers Jésus. Un tout petit moment d'arrêt. Et puis nous venons à cette quatrième partie, ce serment de Dieu. Nous avons vu que la prêtrise, c'est le moteur de tout le culte hébraïque. Dans la relation avec Dieu, tout repose sur le principe qu'on a vu, ces principes-là. Qu'en est-il du Christ? Le Seigneur l'a juré, il ne le regrettera pas. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. La prêtrise de Christ ne relève donc pas d'un processus humain, soit une élection par vote, ou bien comme on a vu, quelque chose par généalogie, mais d'un acte volontaire, définitif, absolu de Dieu, confirmé par un serment qu'il ne remettra jamais en question. Et c'est ce qui rend la prêtrise, selon cet ordre absolument unique. Il est plus grand que tout parce qu'il est établi et confirmé par Dieu lui-même. Et c'est cela qui lui donne cette stabilité pour l'éternité. Et on est appuyé à s'appuyer là-dessus, aujourd'hui. Et dès maintenant, on peut le faire. Vous vous rappelez peut-être, on avait vu cette image lorsque Jésus est mort, au même moment, dans le temple, le voile s'est déchiré. Et nous lisons ce texte encore dans les Hébreux. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire, le lieu très saint de la présence de Dieu, par le sang de Jésus, sa vie donnée pour nous. Accès qu'il a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un grand prêtre institué sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une pleine foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Pour nous donc, avançons-nous régulièrement. Le Seigneur attend que cela, finalement, c'est que nous nous avancions vers lui. La question du péché, elle est réglée une fois pour toutes, pour chacun d'entre nous. Je ne dis pas qu'on est sans péché, on l'a vu tout à l'heure, c'est vrai. Mais il est là pour nous accueillir, il est là pour justement faire ce travail de grand prêtre pour nous auprès de Dieu. Les promesses de Dieu ne s'évanouiront jamais. Jésus, notre Seigneur, restera toujours notre justice et notre paix. Et frères et sœurs, c'est à ça que je vous invite régulièrement. Approchons-nous toujours et encore. Il ne sera jamais fatigué, le Seigneur. C'est ce qu'il attend de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.